Les voix d'ENS.
Coucou les filles, comment ça va aujourd'hui sur les voix d'ENS?
Bah écoute, moi ça va super, je suis grave en forme pour ce nouveau podcast.
Ah bah alors moi pas du tout. Je suis allée faire les courses pour mon grand-père ce matin et en rentrant j'ai voulu les ranger. Mais en ouvrant le congélateur, j'ai eu une frayeur. Accrochez-vous bien les filles. Il y avait une tête de sanglier dans le congélateur.
Oh.
Mais bon, heureusement, je me suis souvenu qu'il était chasseur.
Mais c'est hyper glauque, un sanglier congelé comme ça au milieu des autres aliments.
Je te jure, j'ai eu trop peur.
Mais vous savez à quoi ça me fait penser?
Non.
Vous avez déjà entendu parler de l'affaire des bébés congelés?
Attends, mais t'es pas en train de parler de l'affaire Courgeot, là? Cyriane, t'es quand même passé d'un sanglier à des bébés congelés, là.
Mais si, c'est l'histoire d'un père qui découvre deux cadavres de bébés dans le congélateur familial et qui a évidemment alerté la police. Son épouse, Dominique Courgeot, a fini par avouer les avoir tués et congelés. Elle explique avoir vécu plusieurs dénis de grossesse et son mari affirme n'avoir jamais su qu'elle était enceinte. Cette affaire, elle a choqué l'opinion publique puisque certains remettaient en question la réalité de ces dénis.
Non mais c'est bon, les gens, ils pourraient faire un effort de compréhension si elle a fait plusieurs dénis de grossesse en plus. Après, c'est vrai que vous savez que c'est pas hyper connu ce truc. Hein.
Et mais ça ferait une super bonne idée de podcast pour aujourd'hui, les filles.
Mais de ouf.
Mais carrément.
Bon, du coup, parlons un peu du déni de grossesse. Qu'est-ce que vous connaissez sur le sujet?
Bah, moi, je m'y connais un petit peu. Le déni de grossesse, c'est le fait d'être enceinte, mais de ne pas en avoir conscience. En gros, l'inconscience s'oppose à la prise de conscience de la grossesse. Physiologiquement, t'es bel et bien enceinte, mais comme ton cerveau, il ne l'accepte pas, il va bloquer les signaux explicites de grossesse. On parle de déni à partir de 20 semaines de grossesse, entre guillemets, sans savoir. C'est un déni total si la femme le découvre seulement à l'accouchement, et sinon on parle d'un déni partiel.
En vrai, c'est quand même dingue hein, qu'elle puisse le découvrir seulement à l'accouchement.
Ouais, parce qu'en gros, le déni de grossesse fait partie de ce qu'on appelle les négations de grossesse.
Exactement. En gros, les négations de grossesse, bon, il y en a plusieurs sortes. Mais c'est quand la relation psychique consciente entre la mère et l'enfant au cours de la période anténatale, donc quand l'enfant il est dans le ventre, est limitée ou n'existe en fait tout simplement pas.
Oui, puis il me semble qu'il y en a trois sortes. Il y a le déni de grossesse, la dénégation de grossesse et la dissimulation de grossesse.
Ah oui, d'ailleurs, la dissimulation de grossesse, je sais ce que c'est. C'est une dissimulation consciente de la grossesse, notamment auprès des proches. La femme, elle sait qu'elle est enceinte, mais comme elle n'arrive pas à accepter la situation, bah, elle préfère le cacher. Et des fois, ça peut aller loin. Hein. Certaines vont jusqu'à mettre des gaines, tout ça pour cacher la grossesse, alors qu'en réalité, bah, elles le savent.
C'est ça. En fait, la dissimulation de grossesse, c'est une des premières formes de négation de grossesse. Ensuite, on parle de la dénégation de grossesse. Ça, c'est quand la femme, elle sait au fond d'elle qu'elle est enceinte, mais entre guillemets, trouve des excuses et parvient en fait à se persuader bah, qu'elle ne l'est pas, en rejetant les signes fugaces de grossesse sur d'autres raisons. Du style, elle va se dire « Oh, je suis en retard de mes règles, non, c'est dû au stress. » Ou alors « Ah, bah j'ai grossi, non, c'est parce que j'ai trop mangé. » Et en fait, au fond d'elle, bah, elle sait très bien.
Oui, voilà, puis en psychologie, la dénégation, c'est un mécanisme beaucoup plus subtil que le déni. Physiologiquement, le corps sait qu'il est enceinte et en montre les signes, mais la conscience ne l'accepte pas et surtout la réalité psychique n'est pas acceptée par la femme. Et bien souvent, une fois que la grossesse est annoncée, la femme réalise qu'en fait, elle était au courant depuis le début.
C'est quand même fou hein, ce que le corps humain peut faire quand même.
Mais attendez, c'est pas fini et on y vient enfin. La troisième forme de négation de grossesse, c'est le déni de grossesse. C'est le sujet de notre podcast, les filles, ne l'oublions pas. Et comme on a pu le dire, c'est quand une femme n'a pas du tout conscience de son état de grossesse. Que ce soit au niveau physiologique, genre par exemple le ventre ne se gonfle pas, ou du côté psychologique.
Les dénis de grossesse, ça concerne quand même un cas de grossesse sur 450. Et il y en a un sur 2500 qui est un déni total, donc la femme l'apprend seulement lors de l'accouchement. Ces chiffres y démontrent que le déni de grossesse, c'est un phénomène peu parlé certes, mais qui est une réalité courante en maternité.
C'est vrai que rares sont les moments où nous pouvons prendre conscience de la force du psychisme et de la communion avec le corps et ses organes, notamment dans le cadre de la grossesse. C'est quelque chose d'assez incroyable en vrai, mais finalement, comment expliquer qu'une future maman ne se sente pas enceinte? Enfin, je veux dire, comment expliquer ce paradoxe sidérant qu'est le déni de grossesse?
Non mais t'as raison, c'est quand même sidérant, enfin c'est trop bizarre de se dire que le corps peut rester intact face à une grossesse, il doit bien y avoir quelques signes.
Ah bah justement, dans le déni de grossesse, on parle plutôt d'absence de signes. Les signes de gestation sont pauvres et donc presque imperceptibles pour la future maman. Pas de mouvement du bébé, la femme elle a toujours ses règles, elle n'a pas forcément de nausées et puis elle prend presque pas de poids.
Mais tu sais qu'il y en a même quelques-unes qui au contraire en perdent du poids.
Et c'est vrai que les femmes, souvent elles vont aller consulter pour des douleurs dans le bas du dos, parce que le bébé se logerait à ce niveau. En fait, le fœtus se cacherait au niveau de la colonne vertébrale ou bien derrière les côtes.
Après, parfois, il y a quand même quelques symptômes, mais en fait, ils sont tellement de faible intensité que la femme, elle n'est pas capable, et c'est normal de faire le lien avec une grossesse possible.
Bon, c'est vrai qu'au niveau corporel, c'est assez impressionnant.
Oui.
Mais vous savez qu'au niveau du psychisme, il se passe aussi des trucs assez fous, hein. Le déni de grossesse interdit tout passage de la réalité dans la conscience, et ça agit comme un filtre. En fait, le psychisme donne l'ordre de faire disparaître cette réalité. Notre esprit barre alors la représentation consciente de la grossesse pour éviter un conflit. Dès que la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, il y a comme un déclic. Par exemple, avec la distension abdominale, donc en gros, son ventre qui gonfle. Ça apparaît en même pas quelques heures, voire même quelques minutes. La femme se retrouve alors face à la réalité, sa conscience et son corps s'alignent ainsi.
Oui, c'est vrai que le choc de l'annonce demande alors à la femme de construire en un temps extrêmement court une grossesse. Alors que l'enfant, lui, il est déjà présent depuis quelques mois. Ce qui rend compte d'autant plus du lien entre le psychisme et le corps, comme tu le disais tout à l'heure, Nelcy. Certains chercheurs, ils expliquent qu'à ce moment, le bébé ressentirait qu'il n'a plus besoin de se cacher. Le déni de grossesse, c'est un trouble de la représentation, car la femme, en fait, méconnaît son état, privant ainsi l'existence de son bébé.
Et il ne faut pas oublier que le déni, c'est un mécanisme de défense qui n'apparaît pas sans raison. La fonction psychique du déni de grossesse, c'est principalement de protéger l'enfant et conduire la grossesse jusqu'à son terme. En fait, selon Freud, c'est un mode de défense pour le moi de la femme. Le moi sert notamment à maintenir un équilibre psychique et l'homéostasie. Et les mécanismes de défense témoignent d'une bonne santé mentale, aidant ainsi le sujet à maintenir son équilibre vital.
Dans la grossesse ordinaire, les transformations physiques sont perçues, mais aussi interprétées, pour pouvoir conclure « je suis enceinte », que ce soit du bonheur ou alors une inquiétude. Alors que la femme, en déni de grossesse, ne fait pas l'interprétation d'une grossesse. Et comme on l'a déjà dit avant, le déni est un trouble de la représentation.
En vrai, ça doit être un choc quand la femme accouche quand même.
Alors oui, un choc psychologique certes, hein, mais attention, il peut aussi avoir des complications obstétriques dans le cas des dénis de grossesse. Quand c'est un déni total, la femme, au moment de l'accouchement, elle n'a pas forcément le temps de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. On parle alors de dissociation psychique. Par exemple, ça arrive à certaines femmes d'accoucher aux toilettes en pensant qu'elles allaient juste faire leurs besoins. À ce moment-là, la femme, elle ne perçoit aucune humanité dans l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Et de ce fait, cet enfant, il peut être considéré comme un objet. D'ailleurs, c'est Sophie Marinopoulos qui en parle de ce phénomène, qu'elle parle de phénomène d'aliénation. Car en fait, l'enfant, il n'a pas été pensé psychiquement, il n'a pas été fantasmé. En gros, il n'y a pas eu de maternité psychique.
Après, par rapport aux complications obstétriques, il faut quand même préciser que certes, ça arrive, mais c'est pas non plus hyper fréquent.
Oui.
Et la plupart du temps, surtout dans le cas des dénis partiels, l'accouchement se passe sans complications.
Oui, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, Eléa. Normalement, la période de grossesse laisse le temps d'accepter la grossesse, de s'attacher au fœtus et de se préparer à la naissance et aux soins du nouveau-né. Progressivement, des représentations de l'enfant vont se construire. Et il y aura donc l'enfant imaginaire qui correspond à l'idéal maternel, l'enfant fantasmatique qui correspond à l'inconscient maternelle et enfin l'enfant réel qui apparaît à la naissance. Ces trois types d'enfants doivent se concilier en un seul, chose qui ne se fait pas dans le cadre du déni grossesse, car rappelons encore, c'est un trouble de la représentation.
Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant quand même de faire un point sur la maternité psychique normale, parce qu'on sait d'un point de vue physiologique, dans une grossesse, il y a trois trimestres. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, ces trois trimestres, ils correspondent aussi à un travail psychique que la femme réussit à faire pendant sa grossesse normale.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Durant le premier trimestre, on parle de l'état d'être enceinte, c'est-à-dire l'état qui relie la femme à un corps fécondant et habité. Ensuite, il y a le deuxième trimestre, c'est l'attente d'un enfant qui se caractérise par la représentation de l'enfant et les émergences fantasmatiques et imaginaires qui l'accompagnent, comme tu l'as dit plus tôt, Nelcy.
Alors que dans le cas du déni, ce n'est pas ça. La femme échappe à la sonde échographique qui ne peut pas rendre compte en image de la grossesse, donc il n'y a pas de représentation, comme on disait, ni de lien avec son futur bébé. Ainsi, nous sommes face à une non-grossesse, un non-événement. Il n'y a donc pas d'enfant, pas de mise en route d'une pensée consciente sur un état psychologique, et en plus de ça, le délai entre la prise de conscience, de la grossesse et la naissance est bien trop court pour que la femme réalise le sens de cette annonce et qu'elle puisse du coup se créer des représentations sur son futur enfant, comme dans une grossesse normale. Et finalement, tout ça, ça peut avoir des allures assez traumatisantes.
Puis enfin, quant au troisième trimestre, dans le cadre d'une grossesse normale, ce trimestre aborde l'acte de naissance et surtout l'inévitable séparation des corps et des êtres. Préparation tant psychique que physique. D'autant plus avec les séances de préparation à la parentalité où il y a des démonstrations mimées d'une scène de naissance.
Et oui.
Ce sont des exercices de mise en image de la séparation qui sont tout à fait fondamentaux. Et ce travail n'a malheureusement pas pu se faire dans le cas du déni. Et nous voyons des femmes en état de choc suite à la naissance, comme on le disait plus tôt.
Surtout que bah, la femme qui fait un déni de grossesse, elle avait peut-être pas forcément le désir d'avoir un enfant aussi de base. Hein.
Et ça c'est vrai, hein. Et vous savez que le désir d'avoir un enfant, c'est alors le fruit d'une longue maturation qui engage notamment, bah, évidemment, la sexualité, mais surtout la structuration œdipienne, qui joue un rôle hyper important dans la manière dont une femme va vivre sa grossesse. Car en fait, elle mobilise des dynamiques inconscientes liées à l'histoire personnelle, aux relations avec les figures parentales, à l'identité féminine et à l'image de son corps.
Mais il faut noter que la structuration œdipienne, ce n'est pas que le complexe d'Œdipe et l'enfant qui désire son parent. Elle implique aussi la reconnaissance des limites, l'identification aux figures parentales et l'intégration des interdits, dont l'interdit de l'inceste. Le parent a donc besoin d'avoir intégré tous ces principes, justement pour devenir parent.
En fait, le désir d'un enfant, ça nécessite alors une longue maturation qui en réalité se fait depuis la naissance du sujet et qui aura un impact sur la façon dont la parentalité va être perçue et aussi effectuée.
Après, la grossesse, ça interroge aussi hein, sur la responsabilité de la femme et qui aura à s'occuper d'autrui pour le restant de sa vie avec son conjoint ou alors seule et avec également les multiples renoncements qui vont avec la naissance d'un enfant. Dans le cas du déni de grossesse, tout ce travail n'a pas pu être correctement réalisé.
C'est vrai que c'est hyper intéressant tout ça, mais en fait, c'est dû à quoi le déni de grossesse ? Enfin, il y a forcément des causes qui font qu'on se retrouve malheureusement dans cette situation.
Bah, en soi, il n'y a pas de cause précise qui engendrerait un déni de sûr. Enfin, on ne peut pas noter de phénomène de cause à effet. Mais plusieurs chercheurs ont trouvé qu'il existait des sortes de prédispositions, comme le cadre familial, c'est-à-dire les familles où les limites n'ont pas été respectées. Mmh. Psychiquement, par exemple, la mère n'envisage pas une maternité parce que son éducation a été bafouée. Mais aussi l'attachement, ce sont parfois des femmes qui ont été carencées psychiquement, familialement et socialement.
Mais oui, je me rappelle du cas d'une femme qui était tombée enceinte vers 16 ans. Et en fait, ses parents, ils l'avaient obligée à avorter. En plus de ça, son compagnon avec qui elle voulait élever l'enfant est décédé suite à une altercation assez violente entre le père de la jeune fille et lui. Mais plus tard, en fait, vers 40 ans, après avoir refait sa vie, la femme tombera enceinte 3 fois. 3 déniés de grossesse. Une preuve, encore une fois, que bah, le cadre familial et l'histoire personnelle peuvent jouer.
Bah oui, puis il y a l'âge aussi. Hein.
Oui.
Le déni, il est plus fréquent chez les femmes mineures et chez les plus de 40 ans. Et il y a également la situation maritale qui peut jouer. Selon les études, un tiers n'ont pas de partenaire stable. Et dans 80% des dénis, les femmes sont célibataires. Avec ces chiffres, on pourrait supposer que cette instabilité de partenaire peut jouer en faveur d'une non-grossesse psychique et donc d'un déni de grossesse.
On peut aussi prendre en compte certains facteurs psychopathologiques. Par exemple, les femmes schizophrènes sont plus touchées par le déni de grossesse, ce qui peut paraître assez cohérent car elles vivent déjà dans une réalité qui leur est propre. Ou encore, les antécédents de grossesse peuvent être pris en compte.
En fait, ce serait donc du coup l'ensemble de ces facteurs qui pourraient favoriser les dénis de grossesse. Mais attention, faut pas oublier qu'en fait, la plupart du temps, il faut étudier la situation de la femme au cas par cas. Parce qu'en fait, toutes les femmes, toutes les histoires et donc tous les dénis sont différents.
Concernant les conséquences, le déni sert à protéger la mère et l'enfant. Donc de ce fait, il n'est pas que négatif. Effectivement, plusieurs femmes se sont rendues compte de l'avantage que leur avait procuré ce déni. Certaines n'auraient jamais eu le courage de procréer, par exemple par crainte de mal s'occuper de leur enfant, d'induire des carences comme tu le disais Cyriane. Et en fait, ce sont des femmes qui doutaient de leur capacité à devenir mère.
C'est vrai, les dénis de grossesse entraînent évidemment des conséquences. Il y a des conséquences psychiques, des conséquences sociales, culturelles, mais aussi à d'autres niveaux d'analyse.
Déjà, la relation peut se fragiliser au sein du couple. Hein. Souvent, il y a croyance de tromperie, de cachotterie. Et en fait, le futur père, il est également sous le choc de l'événement. Il se sent parfois trahi par sa femme et des fois refuse de croire qu'en fait, elle ne le savait pas, qu'elle était enceinte. Conséquence avant même la naissance. Cet enfant inattendu, il crée sans le vouloir un climat complexe de doute, de suspicion et de perte de confiance en soi, mais aussi en l'autre.
Après, une fois la levée du déni et le choc émotionnel dépassé, dans la majorité des cas, la mère est quand même capable de nouer une relation avec son enfant.
Oui, c'est vrai.
Mais bon, certaines en seront incapables et vont le confier à l'adoption.
Mais bon, même si c'est rare, il y a aussi les néonaticides, hein, les filles. Hein. Ils sont souvent associés à un trouble dissociatif et représentent 1% des dénis. C'est une situation où en fait l'enfant va décéder de ne pas avoir existé dans la tête de sa mère. L'enfant va naître sans être attendu et donc la mère va finir par annuler sa grossesse en mettant fin à la vie de son enfant.
Aussi, les bébés issus d'un déni de grossesse sont souvent des bébés qui se font en fait oublier à la naissance, qui pleurent peu, etc. Mmh. Comme ils ont appris à exister en se cachant, bah, ils répètent le même schéma. Finalement, le déni de grossesse y représente de véritables enjeux somatiques, psychiques, maternels, néonataux et sociétaux.
Et comme tu l'as dit, Léa, le déni de grossesse, ça représente de véritables enjeux. Et c'est pour cela que la prise en charge postpartum, pardon, notamment psychologique, est très importante pour les deux parents. Le soutien doit s'assurer à partir du moment où la grossesse est connue et doit être également proposé après la naissance, car le déni est souvent source de culpabilité ou de honte, ce qui ne devrait évidemment pas être le cas.
La prise en charge en postpartum est importante, oui, mais pas que. Certes, il n'y a aucun moyen d'être sûr pour éviter un déni de grossesse, mais si on suit une thérapie avec un psychologue, par exemple, pour régler ses propres conflits internes, on pourrait alors limiter du coup le risque de faire un déni de grossesse.
La prévention en matière de déni se situe dans la connaissance de ce phénomène, mais aussi dans notre volonté de lutter contre nos mythes et nos croyances sur la maternité idéalisée. Il faut donc rester ouvert sur ces phénomènes que l'on juge étranges et ne pas en faire un tabou.
D'ailleurs, vous qui nous écoutez, sachez qu'on a nous-mêmes mené notre enquête sur la vision du déni de grossesse. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de savoir à quel point les gens se sentaient informés ou non. On est donc allé dans la rue et on a interrogé femmes et hommes sur la question.
Oui, c'est exact. Et voici ce qu'on en a conclu. 66,7% des femmes que nous avons interrogées ne se sentent pas suffisamment informées sur le sujet. Et de plus, toutes les femmes qui ont déjà fait l'expérience d'un déni de grossesse ne se sentent pas suffisamment informées non plus.
Comme quoi, il y a un réel défaut de prévention, mais aussi de prise en charge. Et je pense que ce podcast sera sûrement utile à plus d'une personne.
Évidemment.
Mais pour ce qui est des hommes, ils ne se sentent pas forcément hyper renseignés non plus. Et 85,7% des hommes dont c'est le cas ne se sont jamais réellement inquiétés du déni de grossesse. Cependant, il est quand même important de noter que ces 85,7% d'hommes qui ne se sentent pas informés prennent tout de même ce sujet au sérieux.
Ouais. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à Sigmund Freud, Sophie Marinopoulos et enfin Benoît Bayle pour leurs travaux qui nous ont grandement aidés dans nos recherches. On vous remercie également bien sûr de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur les voies de l'ENS.